Il est entre 18h15 et 18h30 sur Jet FM. Il est à peu près l'heure d'écouter Retransmission.
Retransmission. L'émission qui permet de découvrir des projets sonores de créatrices et créateurs indépendants. Bonsoir et bienvenue dans Retransmission. Aujourd'hui, nous allons continuer la série « Cheminement et parcours pro » réalisée par Marie Cheneval, avec un second épisode qui s'intitule « Méditation et vibrations sonores ». Bonne écoute!
Méditation et vibrations sonores, un documentaire de Marie Cheneval.
Je m'appelle Kusuma Gunawan, j'ai 41 ans. Actuellement, je suis sonothérapeute, formatrice et instructrice en méditation de pleine conscience et énergie fusionnelle.
Je vais vous proposer un voyage sonore, voilà, comme si vous arriviez d'une journée. Vous allez pouvoir proposer à vos personnes qui viendront vous voir. Et je ne vais pas faire le tambour, le gong, les chants comme d'habitude, parce que la dernière fois, mais t'étais pas là. Mais...
J'ai commencé par faire fac de sport. Donc j'avais un bac S, je savais pas trop quoi faire. Et puis avec ma sœur, on a fait les plus et les moins. Donc j'ai fait fac de sport. J'ai eu donc ma maîtrise. Donc je suis devenue professeure des écoles. J'ai passé mon concours et je suis venue sur Toulouse. J'ai été 14 ans maîtresse, donc professeure des écoles. Je suis passée en maternelle, en primaire. Et puis, à un moment donné, j'avais pas assez de points, parce que j'étais jeune maîtresse. Et on m'a obligée à être ZIL, donc c'est zone d'intervention limitée, ce qui correspond à remplaçante. Et je me suis dit, oh là là, ça va être affreux. Ça va être pas du tout ce pourquoi j'ai envie d'être maîtresse. Et finalement, je me suis vraiment épanouie en étant donc remplaçante. Tu arrives dans une classe et là, tu dois sentir l'ambiance, observer les élèves, la salle. Donc vraiment, écouter ton intuition pour pouvoir gérer la classe. Parce que tu ne sais jamais à l'avance quelle classe tu vas avoir. Évidemment, toujours à côté de mon métier, je faisais des soins, des massages, plutôt pour les danseurs, les circassiens, de la peinture, de la danse, voilà, c'était assez, j'avais plein de petits domaines, en plus de mon métier. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, j'ai eu des enfants, j'ai rencontré mon amoureux, j'ai eu des enfants, et là, le triptyque danse, peinture, art, création et puis soins, ça marchait plus du tout. J'étais trop fatiguée, donc j'ai fait que maîtresse, et là l'intérieur de moi c'était plus du tout juste quoi. J'étais contente d'aller à l'école, mais je rentrais le soir épuisée et j'étais là, mais entre mes enfants, les nuits, le bas âge, pas de parents proches, et puis des élèves jeunes, parce qu'à ce moment là j'étais en maternelle. Je me suis dit, bon, là, va falloir que ça change. Et depuis que j'ai eu mon concours d'instit, je m'étais dit, je ne resterai pas 10 ans, c'est sûr. Ça me plaît, mais ce n'est pas un épanouissement total dans le métier. Bah là, il s'est posé la vraie question, qu'est-ce que je fais ? avant de changer de métier et vraiment de me dire j'arrête professeur des écoles, je faisais des soins aussi pour moi, parce que j'étais un peu fatiguée, voilà, je dansais plus, je faisais que travailler les enfants. Du coup, voilà, au niveau de mon corps et tout, c'était un peu plus complexe. Donc je suis allée voir des personnes, et notamment un magnétiseur. Et là, il m'a fait un son que je n'avais jamais entendu de ma vie. Je ne savais pas du tout ce que c'était, mais c'est vrai que plusieurs années après, je me souviens encore de cette sensation, de cette expérience sensorielle. J'avais vraiment une sensation d'être à la fois très ancrée et en même temps d'être extrêmement légère, un peu en suspension. Je sentais, ça peut paraître bizarre, hein, mais au niveau énergétique, je sentais comme des flux lumineux en spirale. Ça faisait un peu comme Léonard de Vinci avec des énormes spirales tout autour de moi. C'était extraordinaire. J'avais l'impression d'être une énergie, mais en 3D, lumineuse, en mouvement. Et donc, tout s'est un peu mélangé. Le soin, cette sensation très, très puissante, mon envie d'arrêter Instit. C'est vrai qu'en sortant de là, j'ai écouté mon intuition. Donc en sortant de chez le magnétiseur, je me suis dit, j'ai envie de me former, j'ai envie de vivre ça plus souvent. Et j'ai fait cette formation. Et dans cet espace, avec les vibrations sonores des bols tibétains, j'étais dans un endroit où j'avais plus peur. Pour moi, où tout était très clair. Et j'avais une vision des choses, on va dire, avec de la distance, moins de peur, très juste. Et j'étais à une place, voilà, pour une fois où je me disais... Ouais, je suis vraiment à ma place dans ces espaces-là. Et en même temps, dès que je reprenais le boulot, que je reparlais avec les gens de mon envie peut-être de partir et tout, finalement, il y avait très peu de gens qui m'encourageaient. Et puis, au fur et à mesure, la formation elle a duré 6 mois. Et là, c'était sûr que l'année d'après, j'allais encore demander un mi-temps et proposer 2 jours pour les soins. Et finalement, en sonothérapie, c'est venu tout scinder, tout mettre en lien. Pour moi, les bols, ils sont venus relier l'énergétique, l'accompagnement que j'avais avec les élèves, c'est avec des personnes. Et c'est vrai que ça s'est fait. Vraiment, la vie m'a amenée petit à petit. Et puis, je me suis laissée porter aussi vers ce qui m'animait, ce qui me touchait. Bon, ce que j'ai pas dit, c'est que mon papa étant indonésien, il y a toute une histoire de ma famille qui est aussi, on va dire, dans l'énergétique. Et mes grands-mères, ma grand-mère et mon arrière-grand-mère, elles étaient danseuses et professeurs des écoles, ma grand-mère. Et mon arrière-grand-mère était guérisseuse. Elle soignait donc en Indonésie, elle recevait des gens, elle soignait avec les plantes. Et donc c'est vrai que j'ai su ça il n'y a pas très longtemps et je me suis dit, waouh, quand même le transgénérationnel là c'est assez fort.
Me remercier d'être, de m'offrir ce temps de ressourcement, de régénération pour moi, rien que pour moi. Et si c'est un sourire à qui je m'adresse ce sourire. Sans le besoin de toucher ma peau, mes os, de m'étirer. Je m'offre ce cadeau d'écouter ce qui est juste et bon pour moi. Ouh.
sonothérapie, c'est la thérapie vibratoire. Donc j'utilise différents instruments, comme les bols tibétains, le tambour, le chant, le gong, les bols de cristal, le tambour océan. Donc différents instruments avec des fréquences vibratoires différentes qui ont des harmonies. Vraiment, les vibrations sonores vont venir créer des nouvelles formes dans le corps et vont venir en résonance avec les différents systèmes du corps. Donc en sonothérapie, c'est utiliser les vibrations dans le but de rééquilibrer, de remettre de l'énergie, de réharmoniser, de restructurer les différents systèmes pour un meilleur équilibre, une meilleure santé, une meilleure vitalité, un apaisement au niveau émotionnel, être sur différents aussi corps subtils, donc au niveau énergétique, parce que en fait, la voix est aussi un toucher dans une certaine mesure, et les vibrations des différents bols, des différents instruments, viennent nous toucher différemment. Par exemple, les bols de cristal, ils viennent plus au niveau des os, les bols tibétains, on va dire que ça va être plus au niveau émotionnel. Donc on est dans une expérience sensitive où on sent qu'il y a du mouvement à l'intérieur de soi, un relâcher, ça revient nous mettre dans un état de conscience modifié ou de conscience élargie. Un petit peu quand tu vas t'endormir, tu sais que tu t'endors et en même temps, tu as des images, des choses qui s'invitent en toi, des couleurs, des situations. Tu as conscience de ce relâchement-là et en même temps, tu es relâché. Donc les vibrations que je vais utiliser, ça dépend des personnes, de ce que je ressens aussi. Et là, ça vient les mettre dans un état de, au niveau de leurs ondes cérébrales, beaucoup plus lentes. Donc il y a différentes ondes cérébrales. Et c'est vrai que les bols tibétains, par exemple, ou le tambour, peut amener en onde alpha, donc qui est vraiment de la détente, de la relaxation. Mais ça peut aller jusqu'en onde theta, qui est plutôt de l'ordre de la méditation ou de l'intuition, de l'état d'hypnose. Le pan méditation, donc là donc c'est la méditation de pleine conscience. Ça peut s'adresser soit aux enfants, soit aux professeurs, ou à des particuliers, ou à des entreprises. Moi, j'ai mon expérience en tant que professeur des écoles, c'est vrai que je connaissais bien les problématiques que peuvent avoir certains élèves, et puis aussi une classe, ainsi que les professeurs, et je trouve que c'est un outil qui est précieux à faire découvrir aux enfants, et les enfants ils rentrent très bien dedans. Donc j'ai travaillé avec l'ARS par exemple, donc l'Agence Régionale de Santé, dans un cadre de prévention à l'addiction. Pour moi ça a été assez dur de définir mes nouveaux métiers, on va dire, parce que sonothérapeute, les gens ne savent absolument pas ce que c'est. Soins énergétiques, encore moins. Et méditation de pleine conscience, soit on te dit waouh, c'est génial, c'est trop bien ce que tu fais, ou soit on ouvre des grands yeux en disant la méditation à l'école, c'est un petit peu spécial quand même. J'ai eu quand même du mal à dire, je suis énergéticienne, à me positionner. Maintenant, je trouve que c'est beaucoup plus facile de parler de soins au jour d'aujourd'hui, en 2021, qu'en 2017. Alors, peut-être parce que j'ai évolué et que mon positionnement intérieur est beaucoup plus clair, donc finalement, c'est beaucoup plus simple pour moi d'en parler. Ou est-ce que c'est la vague de la méditation qui a quand même un peu explosé, on en parle beaucoup plus, c'est beaucoup plus démocratique. Moi, j'ai participé à des recherches avec avec un laboratoire à Grenoble sur les effets de la méditation à l'école, qui est paru dans un magazine grand public, la Géo. Donc, si tu veux, ça se démocratise. C'est vraiment beaucoup mieux accepté. On en parle de plus en plus. Il y a toujours des réserves. Donc, c'est pour ça que moi, je parle vraiment de méditation de pleine conscience laïque.
Pas encore, je suis toujours en formation, donc pas encore.
Tu finis quand là, ta formation?
Je suis en troisième année, donc il me reste encore deux autres années, puis je vais faire un master de médecine chinoise aussi, avec une université en Chine.
Ah oui, super. En complément.
En complément, ouais.
Ah ouais, là tu vas être.
Comme j'ai déjà la base, donc le master 1, je n'ai plus besoin de le faire.
D'accord.
Donc je fais juste une année de master 2, comme ça j'aurai un diplôme chinois.
Donc un diplôme chinois, un diplôme français.
Voilà.
Bon bah moi je vais te voir dans 5 ans, elle est au top quoi.
C'est ça. Ouais, ça va être chouette. C'est bien.
Mais nouvelle vie quoi.
Ouais, c'est ça. Ça change complètement.
Hein. Parce qu'attends, tu faisais quoi avant? Moi, je croyais que tu étais.
L'aéronautique.
Ah, mais moi, je croyais que tu étais déjà là-dedans.
Et non, moi, je me suis reconvertie.
Ce que j'ai remarqué, c'est que quand à l'intérieur de moi, c'était clair, voilà ce que je proposais, et bien finalement, les personnes qui sont venues pour les soins ou pour les formations étaient un petit peu différentes. C'est-à-dire que maintenant, j'ai beaucoup plus de professionnels. Ça m'a créé de la légitimité aussi de me dire, tiens, il y a des ostéos qui apprécient mon toucher, des psychologues qui aiment ce travail à la fois énergétique, mais aussi je peux être dans la parole, enfin, on peut aussi être avec des moments d'échange. Je sens que mon travail, il évolue aussi en fonction des gens que je rencontre, de ce qui se passe en ce moment, etc. Et je me dis, je sais qu'aujourd'hui, dans quelques années, mon travail aura évolué. Et je sens qu'au quotidien, ma relation à mon travail change. Et je le perçois vraiment. En même temps, moi, je chemine aussi à ses côtés, quoi. D'être à mi-temps, je me mets à plein temps soin thérapeute et je fais de la méditation et en énergétique. Elle m'a dit ah, mais c'est horrible, mais tu peux pas faire ça, non mais, ah, mais ça va pas, mais c'est horrible. Donc elle a dit ce mot horrible au moins 3 fois. Voilà. Et je me suis dit ouais, heureusement que je sais qu'au fond de moi, je sais que c'est juste parce que c'est pas facile. Donc mes parents, finalement, ils m'ont jamais vraiment interrogé sur mon métier. Je leur ai fait il y a un an. Ma mère a dit oh, c'est super agréable. Et mon père m'a dit peut-être que tu devrais prendre des cours de chant. Je leur ai jamais vraiment dit exactement ce que je faisais non plus. Et là, il y a 2 mois ou 1 mois et demi, mon père m'a dit mais qu'est-ce que tu fais comme métier? Et donc là, j'ai pu lui dire clairement voilà ce que je proposais. Et à un moment, il m'a dit, mais c'est un petit peu magique quand même. Le fait d'avoir cette grande liberté de proposer aussi tes ateliers, tes stages, tes soins comme tu as envie de le faire, c'est quand même ça, c'est chouette. Et là, c'est vrai que cette liberté, pour moi, c'est important. Donc, je préfère être dans une qualité de vie professionnelle qui soit plus en accord avec mon être profond, ce qui me rend heureuse, que de gagner beaucoup d'argent, parce que je pense que je n'aurais pas cet élan. Donc, le fait d'être heureuse et alignée par rapport à ce que je propose et ce que je suis, pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment un confort, même si je ne gagne pas beaucoup. Quand j'étais plus jeune, le travail, c'était quelque chose qui était laborieux. C'est-à-dire qu'il fallait du courage, de la labeur. Travailler, ce n'était pas du tout une notion de plaisir ou de quelque chose de confortable. Tu méritais de ton ton travail ou tu avais de bonnes notes parce que tu avais bien travaillé. C'était vraiment dans cette, par rapport à cette notion-là. Et au jour d'aujourd'hui, mon travail, c'est plus quelque chose qui est en lien avec ce que je suis, mais qui n'est pas moi. Et c'est comment tu manifestes une partie de toi dans la réalité de ton quotidien. Aujourd'hui, le fait de dire que tu es énergéticienne, que tu travailles dans la méditation ou sonothérapeute, c'est plutôt bien accueilli. Le travail a beaucoup moins de notions de labeur. Maintenant, quand même, il en reste une petite. C'est-à-dire que pour moi, le travail, c'est pas de la oisiveté ou une liberté totale. Dans le travail, il y a quand même des contraintes. Et c'est ce rapport contrainte-liberté ou contrainte-plaisir. Et même s'il y a de la liberté et du plaisir, dans le travail, il y a toujours quand même de la contrainte. Et après, tu fais la balance.
Je peux expirer pleinement, inspirer, expirer à mon rythme. Oh, je relâche la mâchoire. Je visite les points de contact de mon sol, avec la terre. Je peux me déposer. Je peux tout déposer. Mon corps, mon esprit aussi. Je laisse faire. Et j'expire.
Alors ça me fait référence à un livre que j'ai lu, et il parlait de sa patiente Alpha, une de ses patientes qui vraiment lui a fait ouvrir les yeux. Moi j'étais pas encore... je faisais des soins. Je faisais des soins mais j'étais toujours professeure des écoles. Et j'étais à un stage, donc avec une chorégraphe, Brigitte Fischer, et c'était le temps du massage du matin. Il y avait une personne, Chantal, qui était hémiplégique et qui venait participer au stage, et c'est vrai que Brigitte lui disait « Écoute, tu visualises que ton côté gauche fait aussi les mouvements, même si réellement il ne pouvait pas bouger parce que c'était tout... il n'y avait pas de mouvement au niveau de son bras gauche et très peu au niveau de sa jambe, mais elle lui proposait de visualiser, de faire les mouvements du côté droit et de visualiser à gauche. » Et donc elle lui dit « Kusuma, elle est masseuse, pour le massage du matin, tu peux lui faire confiance, voilà. » Donc moi, je demande à Chantal comment ça va, si quand je touche son bras gauche, elle sent. Et elle me dit « Non, je sens rien. » Bon, du coup, je ne me voyais pas masser les muscles, les pétrir, les étirer et tout. Pour moi, ce n'était pas juste et je n'ai pas réfléchi. Finalement, j'ai juste analysé la situation après. Mais sur le moment, je l'ai touché, j'ai pris ses mains. Voilà, en étant pleinement là. Alors après, quelques jours après ou quelques semaines après, j'ai réalisé que j'ai touché son bras qui ne bougeait pas, qui était paralysé, un peu comme quand tu touches un bébé, c'est-à-dire que tu es pleinement là, mais tu n'attends rien. Tu n'as pas envie de lui faire faire quoi que ce soit, tu prends ton bébé, voilà, tu es là, quoi. Et j'ai touché son bras gauche comme ça. Et à un moment donné, c'était assez magique, d'ailleurs après ça m'a mis les larmes aux yeux, c'est qu'elle a commencé à bouger les doigts de sa main, à lever sa main et à dire « Tiens, je peux toucher mon nez. » Et à monter son bras tout en haut. Et là, moi, j'ai une vague d'émotions. Je me disais « Mais c'est quoi ce miracle ? Je ne suis pas lourde. C'est quoi ce truc ?» Et en même temps, je voyais Chantal complètement impassible, qui, de manière très détachée, ouvrait ses doigts et me disait « Ça fait 7 ans que je n'ai pas ouvert ma main. » ensuite, elle est revenue, donc hors du stage, faire des soins chez moi. Et elle ouvrait de moins en moins sa main. Et ce que j'ai remarqué, donc, mais ça, c'est des mois et des mois après, hein, que plus on se voyait, plus elle et moi, on avait envie que ça se réouvre, que son bras puisse remonter, rebouger comme avant. Et finalement, quand on se voyait, l'ouverture était de moins en moins, ça commençait à lui faire mal et tout. Et donc, moi, je ne comprenais pas, et elle non plus. Et puis après, bon, bah, nos chemins de vie ont fait qu'on ne s'est plus trop vus, etc. Et moi, j'ai analysé la situation et je me suis dit, finalement, plus je voulais que ça s'ouvre, moins ça s'ouvrait. Et elle aussi. On était là toutes les deux pour le même objectif. Et donc, on voulait que sa main s'ouvre et que son bras s'ouvre. Or, qu'est-ce qui a fait que son bras s'est ouvert? Je pense déjà que c'est le fait que Brigitte, la chorégraphe, lui ait demandé de visualiser pendant 3-4 jours, toujours à gauche, son bras paralysé, de le faire bouger. Donc, je pense que le fait d'être dans une visualisation comme ça, bah, ça a activé quelque chose dans son cerveau. Et moi, le fait d'avoir un toucher sans attente, mais présent, ça a changé quelque chose. Après, dans ma vie, c'est vrai que il s'est passé des choses, on va dire, pas forcément très compréhensibles ou plus de l'ordre de l'invisible. Et j'ai pas eu d'enseignement, on m'a pas enseigné. Donc j'ai vraiment cheminé, moi, toute seule avec ça, avec des rencontres que j'ai faites. Mais Chantal, ça a été une expérience extrêmement forte et qui m'a même, à un moment donné, je me suis même arrêtée de faire des soins. Parce que c'était tellement fort, je comprenais pas. Ça me faisait un petit peu peur aussi de me dire, mais c'est trop bizarre. Donc, pendant quelques mois, un an et demi, j'ai dû m'arrêter en me disant, non, mais en fait, je veux pas rentrer là-dedans. Il y a des choses que je comprends pas, que je maîtrise pas. Ça me fait peur, quoi. Voilà, j'ai développé mon don, j'ai accepté mon don.
C'était Méditation et vibrations sonores. Merci à Kusuma Gunawan pour son témoignage.
D'écouter Méditation et vibrations sonores, le second épisode de la série Cheminement et Parcours Pro réalisé par Marie Schoenval. Tous les podcasts de l'émission Retransmission sont à retrouver sur le site de jetfm.fr. Tout de suite après, c'est Chemin d'Afrique par Calomé. Bonne soirée sur JetFM.